C'est une joie d'être avec vous ce matin et puis de partager la parole de Dieu avec chacun de vous. Merci à Raphaël pour ton introduction et puis merci à Luc et puis toute l'équipe de leadership de m'accueillir. Le titre de mon message ce matin, ma mission après l'accomplissement de Christ. On vient de prendre ce moment de scène et j'aimerais qu'on puisse réaliser au début de ce message ce que Christ a fait. Parce que la mission, sans avoir les yeux fixés sur le Messie, il y a quelque chose qui manque. Et la vie, quand on perd de vue le Messie, eh ben c'est là qu'on commence à faire des bêtises. C'est là qu'on prend des décisions dans le monde économique, dans le monde politique, dans notre manière de voter. Au moment où on perd la vision sur le Christ, on commence à dérailler. Et je crois que le Seigneur, il veut nous appeler ce matin à fixer les regards sur le Christ. Et la chose folle, c'est que Jésus, quand il a communiqué au monde, entre 20 et 40% des évangiles, ça parle de la croix. Jésus a choisi la croix pour communiquer un message. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre personne qui choisirait la croix pour communiquer un message au monde. Et ce moment de scène qu'on vient de prendre, il y a quelque chose de tellement puissant que Dieu veut faire. Surtout dans une génération où on a eu l'habitude d'être abondamment béni. En fait, on réalise plus, mais on est dans une telle abondance que finalement, on a peut-être justement perdu la vision du Messie. Et le peuple d'Israël, quand il perdait la vision de Dieu, ben c'était assez simple. Il y avait des pestes, il y avait de l'exil, il y avait des guerres. Je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose. Parce que Dieu, le cœur de Dieu, il veut ramener nos regards sur Christ. Je dirais qu'actuellement, on est dans une saison où il y a le meilleur et le pire. Dans la même journée, dans le même moment, dans les mêmes endroits. Spirituellement, il y a des choses incroyables qui se passent. Et puis, physiquement, il y a des choses horribles. En même temps. On ne peut pas dire que tout va mal. Parce que dans le monde spirituel, Dieu, il est à l'œuvre. Son royaume, il est à l'œuvre, peut-être plus que jamais. Donc tout est ébranlé. Mais il y a comme un appel. Et je crois que Dieu veut parler à la génération de l'abondance. Dieu veut parler à la génération qui a beaucoup été bénie. Et il aimerait un peu peut-être nous secouer. Et il aimerait peut-être même nous sortir d'une sorte d'apathie. Le texte que je veux prendre ce matin, merci beaucoup Luc, il a entendu. Pourtant, je ne parle pas de la croix, hein. Jésus, quand il était sur la croix, il a eu soif aussi. Et il n'y a personne qui lui a amené une petite bouteille à boire. Ce matin, j'aimerais prendre le texte d'un psaume, psaume 22. Et c'est vraiment à la suite de cette scène. Psaume 22... Au verset 2, Dieu, il est dit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je crie, mais ton secours ne vient pas. » Moi, je trouve fascinant ce psaume. Parce qu'imaginez-vous, ça a été écrit 1000 ans avant que Jésus ait dit ça sur la croix. David, il a écrit ça 1000 ans avant. Il n'y a que la Bible qui nous parle si longtemps en avance. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important qu'on s'accroche à la parole. J'ai dit, le meilleur et le pire est devant nous. Si vous voulez tenir le coup, c'est la parole de Dieu qui vous permettra de tenir le coup. Parce que la parole de Dieu, elle est prophétique. Elle nous parle de l'avenir. Dans Apocalypse 6, 17, il est dit, qui va tenir debout? Qui peut vivre encore? C'est tellement dur que pour garder la foi, il y a cette question. Qui va tenir le coup? Qui va encore vivre? Qui va vaincre? Et là, David, il écrit dans Psaume. Et je crois que le Messie a été prophétisé bien avant qu'il vienne. Ce qu'on est en train de vivre a été prophétisé bien avant qu'il vienne Jésus. Et si on lit un peu plus loin de ce psaume 22, c'est incroyable. Il est dit à partir du verset 13, « Beaucoup d'ennemis m'entourent, ils sont autour de moi comme des taureaux, comme les puissants taureaux de Bashan. Ils sont comme des lions, ils ouvrent leur gueule contre moi pour rugir et déchirer. » Ma force s'en va comme l'eau qui coule, tous mes os se détachent. Mon cœur est comme la cire, il fond de ma poitrine. Ma gorge est sèche comme un morceau de terre cuite et ma langue reste collée sur ma bouche. Tu me mets déjà au bord de la tombe. Un groupe de bandits m'entoure, tout autour de moi, comme des chiens qui m'ont percé, les mains et les pieds. Je suis très maigre, on peut compter tous mes os, mes ennemis me fixent attentivement. Entre eux, ils partagent mes habits et ils tirent au sort pour savoir qui aura mes vêtements. Mais imaginez-vous, 1000 ans avant, David, il écrit un psaume. Et franchement, quand vous lisez, ils m'ont percé les mains et les pieds. 1000 ans avant, la mort sur la croix, ça n'existait pas. Vous ne savez pas ce que c'était. Ça n'avait pas encore été inventé. Et je crois que le message du Christ, de cette croix, Dieu l'a préparé. Il y a quelque chose de tellement puissant qu'on peut vivre aujourd'hui. Et je crois que si on se tient sur la parole de Dieu, eh ben, on aura confiance dans cette saison. Parce que quand vous lisez la fin de la Bible, vous savez que ça finit bien. Vous savez que le royaume, il est pour ceux qui viennent à lui. Vous savez qu'il y avait une espérance. Et moi, je trouve formidable. Et vraiment, mon premier point, c'est que le Messie a été prophétisé. Et à un moment donné, ce qu'on a vécu ce matin, c'est comme si c'était accompli. Mais j'aimerais revenir sur un deuxième point, c'est la souffrance. C'est fou de se dire que le Messie a souffert. Et si aujourd'hui, combien de personnes sont en train de souffrir, même ici parmi nous? Ben Jésus, il dit, je vous comprends. Et je crois qu'on a le droit d'exprimer nos souffrances, nos difficultés. On a le droit d'exprimer comme c'est dur. Mais je prie le Seigneur qu'on n'agisse pas sur nos souffrances, mais qu'on agisse sur la parole de Dieu. Je prie que ce ne soit pas nos souffrances qui nous dirigent, qu'on puisse dire nos souffrances à Dieu, mais que nos souffrances ne nous dirigent pas, mais qu'on continue à obéir la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait. Et je crois que je prie que dans nos souffrances, on ne perde pas de vue le Messie. Je prie que nos souffrances ne soient pas quelque chose qui nous éloigne de Dieu, mais que ce soit quelque chose qui nous ramène vers Dieu. Moi, je crois que Dieu, il répond à toutes les prières. Il n'y a pas tout le monde qui a dit Amen. Sauf que certains y répondent comme nous on veut, et certains y répondent comme lui il veut. Mais il répond à toutes nos prières. Je m'explique. C'est que Dieu, s'il ne répond pas comme nous on veut, c'est qu'il a un meilleur plan. Là où on imagine, on prie, puis ça ne marche pas, eh bien, dites-vous que Dieu, il a un plan meilleur. Dites-vous que Dieu peut utiliser les choses pour quelque chose d'encore plus grand. Moi, je me souviens, ma maman, elle priait, elle avait un peu de peine à l'école, que moi, je n'aie pas de peine à l'école. Eh bien, pas de bol. Semblerait que c'est encore pire qu'elle. Mais grâce à ça, Dieu savait. Il s'est dit, j'ai toujours dû m'entourer de plein de bénévoles, plein de gens pour m'aider. Parce que je n'arrivais pas. J'avais besoin de gens pour me corriger, j'ai besoin de gens pour calculer. Et Dieu a utilisé quelque chose. Je me souviens, mais nos enfants, on a 4 enfants. Et puis, des fois, on priait quand on allait dans les églises. Seigneur, fais qu'ils ne fassent pas trop de bêtises, fais qu'ils restent assis sur les chaises. Et ça ne marchait jamais. C'était les pires. Ils finissaient sur la scène. Ils mettaient tout le temps des combines. Et puis aujourd'hui, on réalise, on priait pour qu'ils restent assis, mais finalement, Dieu avait prévu de faire d'eux des entrepreneurs, des leaders, des audacieux. Il y en a un, il est à Izone, et puis il est tout content là-bas, et puis ils ont à 19 ans, ils ont démarré leur entreprise. Ils sont indépendants, ils aiment le Seigneur, ils sont à fond. Et je crois que quand Dieu ne répond pas, dites-vous et soyez confiants que même s'il répond différemment, qu'il a un plan. Même dans les pires situations. Dans Romains 8, 20, 35, je vais lire quelques versets. La Bible nous dit, qui peut nous séparer de l'amour du Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? J'aimerais vous dire, même s'il y a de la souffrance, gardez la foi. J'aimerais vous dire que la souffrance ne vous éloigne pas de Dieu. Et que Jésus, il était à la croix. Il était à la croix pour nos péchés. Le péché, il est révélé à la croix. Le péché, c'est moche. Quand vous péchez, ça veut dire la croix. Ça veut dire cloué. C'est Jésus cloué à la croix. Et je crois que dans une société occidentale où on a beaucoup d'influences qui viennent avec ces Netflix qui déroulent, où le péché est banalisé, Jésus veut nous dire tout à nouveau, le péché c'est moche, le péché c'est horrible. Le péché, il n'y a rien de joyeux. Il n'y a rien de drôle de péché. Parce que si le péché était drôle, Jésus aurait trouvé rigolo d'être sur la croix. Mais ce n'était pas du tout drôle. C'était horrible. Le péché, c'est horrible. Et je crois que le Seigneur, il nous invite tout à nouveau à nous mettre en question toujours, à ne pas s'habituer au péché, à ne pas laisser le péché entrer simplement dans nos vies. Dans Romains 6, 23, la Bible nous dit, « Oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, 23. Le péché, c'est la mort. Et ce n'est pas parce que le pardon du péché, c'est gratuit, que ça n'a pas de prix. C'est pas parce qu'on vous quelqu'un vous donne une voiture que la voiture elle est gratuite. C'est pas parce que quelqu'un vous donne quelque chose qu'en fait il n'y a pas un coût. Si Jésus vous pardonne gratuitement, par grâce, c'est pas parce que c'est gratuit. Il a payé un prix fort. Et le prix, il était extrêmement fort. Parce que quand Jésus il était sur la croix, tous les évangiles, Jésus il parlait de son Père. Mon Père. Et tout à coup, sur la croix, Psaume nous dit, au verset 2, « Mon Dieu, mon Dieu, le Père est devenu Dieu pour que nous, Dieu devienne le Père. » C'est pas incroyable? Quand Jésus il est né, il faisait nuit et la Bible dit qu'il y avait la lumière. Quand Jésus il est mort, il faisait jour, mais les ténèbres sont venues. Et je crois que tout à nouveau, il faut qu'on prenne conscience du prix et de la puissance de la croix et d'avoir les yeux fixés sur le Messie. Je viens vous dire que si le péché nous tourne autour, te tourne autour, Dieu t'aime. J'aimerais aussi te dire qu'on travaille tous. On est tous pécheurs. Et t'es pas tout seul si tu te bats avec quelque chose. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ. Ne cachez pas de secret, mais partagez-le. Vous avez une église ici, vous avez des cellules, vous avez des groupes. Ouvrez vos cœurs. Je prie qu'on puisse prendre conscience de l'expiation de Jésus. C'est un peu un gros mot, mais pas facile à comprendre. C'est une personne pas impliquée qui prend la place pour payer le mal. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et Jésus, il n'a pas reculé devant les conséquences. Il n'a en rien reculé devant sa situation. Il aurait pu abandonner, il aurait pu lâcher. C'est quelque chose qui me fascine avec les gens qu'on travaille. Ils n'ont pas de plan B. Et pourtant, ils sont dans l'opposition, ils sont dans la difficulté, ils sont dans tout ce qu'on peut imaginer de plus complexe. Ils n'ont pas de plan B. Ils ont le regard fixé sur le Messie, sur celui qui a passé à la croix. Et ils n'ont pas de plan B. Et je crois que c'est le défi de notre contexte. C'est qu'on a le plan A, B, C, D. que ça marche pas, on a encore ça. Et pour finir, on perd le regard sur le Messie. Et je crois que le Seigneur, il veut nous parler. Pour moi, c'était important. Ce matin, je parle de mission, ça n'a pas l'air. Mais la mission, sans le message, ça ne sert à rien. Et c'est ce message-là qu'on doit tout à nouveau prendre. Et moi, je prie que ce temps de Pâques puisse être un message renouvelé du prix que Jésus a payé à la croix. Et si on revient dans ce texte de psaume qui a été écrit par David, on continue à lire. Au verset 23. Parce que la première partie, ben, il parle de la croix, il parle de cette mort atroce, il parle de la souffrance, il parle de ces aspects terribles que Jésus a traversés, prophétiquement. Et ensuite, il dit, « Tu m'as répondu, j'annoncerai ton nom à mes frères et sœurs au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. » Vous qui respectez le Seigneur, chantez la louange. Tous les fils de Jacob, rendez-lui gloire. Tous les fils d'Israël, tremblez devant lui. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas détourné son visage de lui. Le malheureux a crié vers le Seigneur l'a écouté. Combien il y a de malheureux dans le monde ? Il y en a peut-être comme jamais, mais le Seigneur les écoute. Grâce à toi, Seigneur, je peux chanter la louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te respectent, je ferai ce que j'ai promis. Les pauvres mangeront, ils n'auront plus faim. Ça fait du bien d'entendre ça. Ceux qui cherchent le Seigneur chanteront sa louange, qu'ils vivent pour toujours. Toute la terre se souviendra du Seigneur et reviendra vers lui. Toutes les familles des peuples l'adoreront. Je trouve fascinant ce que David il dit là. Il nous dit que ce message-là, il faut qu'on le communique. Cette délivrance, ce message, il est appelé à devenir public. C'est comme si au début, c'est annoncer aux frères et aux sœurs, ensuite annoncer à votre famille élargie, aux enfants de Jacob, aux fils de Jacob, ensuite à toute la famille d'Israël, à tout un pays. Et puis ensuite, il est même dit, et toute la terre se souviendra du Seigneur et les nations. Ce message est appelé à ne pas rester privé dans vos cœurs, comme que le Seigneur dit que vous priez, entrez dans votre chambre et priez, c'est peut-être comme si ce message, des fois, on dit, ah, mais c'est privé, c'est un peu à moi. C'est ce qu'on nous dit tout autour de nous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je crois qu'on est appelé à communiquer. Et dans les différentes sphères. Et j'aimerais vous dire que, particulièrement dans cette saison où c'est comme s'il y a des murs qui se construisent un peu partout. C'est comme s'il y a des séparations, c'est comme si les frontières, tout à coup, elles sont de nouveau super réelles. J'étais aux États-Unis il y a deux semaines, je ne sais plus. Puis, que je suis arrivé, ben, j'ai eu un petit problème à l'aéroport et puis ils m'ont mis dans la cage de ceux qui n'étaient pas en ordre. Et puis je me suis retrouvé pendant 3h30 dans un truc un peu spécial, avec tous les Mexicains, avec les Ukrainiennes, avec tous les gens ben, qui ne pouvaient pas entrer. Et c'est là que vous prenez conscience des murs. Et comme tout, c'est encore plus compliqué. Et comme chacun veut consommer local, manger local, vivre local, acheter local. Bon, faudrait déjà produire assez pour pouvoir acheter local. Mais c'est comme si le Seigneur, il nous dit, ce message, il n'est pas seulement pour ici, il est pour ma famille, il est pour ma nation, il est pour les nations. Et il cherche nos cœurs. Apocalypse 7, 9 à 10 nous dit, je le lis parce que c'est tellement fascinant. Après cela, je regardais encore, je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de tous les tribus, de tous les peuples, de toutes les langues. Personne ne pourra plus les compter. Ils sont debout devant le siège, devant le roi, devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte, « Notre Dieu est assis sur le siège royal et l'agneau. » C'est comme si le Seigneur il prophétise ce qui va arriver. Et il y aura des gens de partout, pas seulement d'Ukraine, du Yémen aussi, de Somalie, de la Libye, d'endroits qui sont plus loin pour nous, mais c'est les mêmes êtres humains, c'est les mêmes personnes. Et le Seigneur veut élargir. Je crois que c'est une proclamation de victoire dans ce psaume. Toute la terre se souviendra du Seigneur et reviendra vers lui. Toutes les familles des peuples l'adoreront. Oui, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples. Ceux qui sont pleins de vie mangent et l'adorent. Tous ceux qui vont mourir, ceux qui ne peuvent pas rester en vie, se mettront à genoux devant lui. Je crois que David, il fait une proclamation de victoire de ce message. Et un des versets qui me parle beaucoup, c'est Hébreux 12, 2, où il est dit, il a accepté de mourir sur la croix sans honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir maintenant. Il est assis à la droite de Dieu. Donc Jésus, quand il a passé par la croix, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? D'avance, il ne s'est pas laissé prendre par les gens qui ont dit « Ah, sauve-toi, viens, si vraiment t'es le roi. » Non, il a souffert. Parce que d'avance, il voyait la joie de ce que ça allait produire sur nous. Il avait la joie d'avance de se dire un jour à Yverdon, à l'Escale, les gens sont rassemblés en son nom parce que ce que je suis en train de faire leur permet ça. Et moi, je prie qu'on puisse proclamer, qu'on puisse réaliser que c'est une victoire. Il y a quelque chose de joyeux et il y a comme Dieu qui est en train de lever une armée tout autour de la terre. Dans notre contexte, les choses sont difficiles partout dans le monde. Mais il y a l'œuvre de Dieu, c'est incroyable comme jamais. Il y a comme un mouvement de Dieu. Ça n'a pas l'air, mais il y a un mouvement de Dieu. Et Dieu ne permettrait pas tout ça si ce n'est pas pour sa gloire, si ce n'est pas pour ce projet-là. J'imagine Jésus à côté du Père se réjouir avec chaque personne qui trouve le chemin. Et pour finir, au verset 31 du psaume 22, il est dit « Leurs enfants le serviront. On parlera au Seigneur à la génération d'aujourd'hui, à ceux qui vont naître. On racontera ce qu'il a fait pour sauver les peuples. » Je crois que le Seigneur y désire qu'on puisse communiquer à cette nouvelle génération le message. C'est notre responsabilité. Et je crois que les générations futures dépendent de notre fidélité à transmettre, de notre fidélité à leur partager le message de la croix. Ce n'est pas l'école qui va le faire, ce n'est pas forcément les médias qui vont le faire, ce n'est pas les autres qui vont le faire, c'est vous. J'ai le privilège de me lever chaque matin et puis j'ai ma dernière, elle se lève avec moi pour lire la Bible tous les matins, deux chapitres. et c'est un privilège. Puis de voir la manière qu'elle entend, qu'elle voit et qu'elle arrive à communiquer ce qu'elle lit dans la parole, c'est tellement beau. Et j'aimerais vous encourager, il n'y a pas que l'école du dimanche qui fait ça. C'est dans les foyers qu'il y a un enjeu de communiquer le message de Jésus-Christ à ces générations-là. La bonne nouvelle, c'est que le message, on l'a. Jésus-Christ l'a payé sur la croix. On n'a pas besoin de passer par la croix. Notre rôle, c'est de transmettre le message. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est fou. Mais est-ce qu'on le fait? Moi, je crois que Jésus, il a rempli sa tâche. Il a obéi au Père. Il a fait ce que le Père lui a demandé. Maintenant, la question, est-ce que nous, on remplit notre partie? Est-ce que nous, on transmet ce message à nos familles, à notre nation et aux nations? Ma prière, c'est que ce matin, on ne perde pas de vue le Messie de tout ce qu'on fait. Qu'on ne perde pas de vue ce qu'il a fait. Qu'on se rende tout à nouveau compte. Et que ça puisse être tellement clair dans notre esprit qu'on ne peut pas ne pas le transmettre. Qu'on ne peut pas se taire. Je crois que c'est un peu comme si un colis à la poste avec le message du Christ, nous on est les postiers. On est ces gens qui prenons le message du Christ et puis on va l'amener. On vient devant des portes de gens qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît plus ou moins. Et puis on leur donne le colis, on leur donne le message. Après, ce qu'ils en font, c'est le Saint-Esprit qui gère ça. Mais soyons, amenons ce message d'une manière le plus adéquate possible pour qu'ils ouvrent, pour qu'ils le comprennent. Mais ma prière ce matin, c'est qu'on puisse transmettre ce message et qu'on puisse l'apporter plus loin. J'aimerais prier. Seigneur, moi je suis toujours ébranlé et touché de réaliser que ce psaume a été écrit 1000 ans avant que toi tu aies passé par la croix. Et Seigneur, merci parce que ta parole, elle ne change pas. Et dans un monde où il y a tout qui change tellement vite, ta parole, elle est fiable, elle est stable, elle est prophétique. Et comme David a prophétisé pour le futur, d'autres prophètes ont prophétisé. Dans ta parole, on sait que le royaume vient. On a une espérance incroyable. Et Seigneur, moi je prie qu'on puisse mettre notre foi là-dessus. Seigneur, si on a souffert, si on souffre, ben toi tu es celui qui comprend. Il n'y a personne qui a souffert comme toi. Il n'y a personne qui a vécu une agonie comme toi. Et ce matin, tu nous dis, je comprends. Ce matin, tu nous dis, je te vois. Et tu veux nous permettre de voir plus loin. Tu veux nous encourager. Tu veux nous emmener. Tu veux être avec nous. Et Seigneur, on ne veut pas s'éloigner de toi, mais on veut s'approcher de toi. Et puis quand nos prières ne vont pas dans la direction dans laquelle on aimerait, mais où nos prières vont dans ta direction, que nous puissions accepter et te faire confiance. parce que tu as quelque chose de meilleur derrière. Seigneur, ce matin, fais-nous prendre conscience tout à nouveau que le péché, c'est sérieux. Que le péché, ça fait mal. Que le péché, c'est quelque chose qu'on doit quitter. Mais Seigneur, malgré qui on est, tu nous aimes. Et Seigneur, on a tous à travailler. Et Seigneur, moi je te demande que ce matin, tu puisses venir sur nous. Et que c'est comme si ce matin, tu puisses nous révéler tout à nouveau la croix dans ce temps d'avant-Pâques. Qu'on puisse vraiment avoir tout à nouveau une révélation de ce que tu as fait. Pour que dans un deuxième temps, notre message puisse être rempli, puisse être du premier amour, puisse être convaincant. Que nous puissions transmettre, proclamer, que nous puissions avoir la joie de voir des gens te trouver dans cette saison troublée, dans cette saison que tu utilises pour ramener les gens à toi. Seigneur, nous fixons les regards sur toi. Nous te disons merci pour ton œuvre à la croix. Et nous te demandons, à la manière que toi tu as obéi, que nous puissions obéir à le transmettre. Moi je prie pour cette communauté et je te demande pour chaque personne qu'ils puissent être des transmetteurs de cette foi dans leur famille, dans cette région, dans cette nation, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.